Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue.
Loin du marché touristique, la Vende et Picaudon, c'est plutôt le pari de la proximité et du local qu'a fait Mathieu Yon, agriculteur fraîchement installé en maraîchage à Dieulefi. Au marché du Lavoir, il propose plusieurs prix selon les revenus de chacun, un principe partagé qui vise à changer notre rapport avec ce que nous mangeons et surtout à rendre accessible au plus grand nombre des légumes de qualité qui sont produits localement. Ce marché atypique a déjà fait ses classes à Dieulefi de juin à décembre dernier et va réouvrir en ce mois de mai avec de nouveaux producteurs et productrices et des idées plein la tête. Mathieu Yon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes originaire de la Drôme, vous êtes revenu il y a un an pour vous installer à Dieulefi avec un projet un peu plus large que produire des légumes. On va en parler ensemble, mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes devenu maraîcher et comment vous avez appris à faire pousser des légumes ?
Alors, j'ai grandi à Combeauvin et à La Baume, Corniane, plus au nord de la Drôme. Et le fils de l'agriculteur était mon meilleur ami quand j'étais gamin, qui a repris l'exploitation de son père. Et voilà, et je pense que d'avoir grandi dans cette ferme, ça m'a donné des images, des sensations et des rêves d'enfant autour de l'agriculture. Et il y a à peu près 6 ou 7 ans, je ne sais plus, je me suis dit, allez, je me lance. Donc j'essaye de faire maraîcher. Et j'ai commencé il y a quelques années, du coup, à faire maraîcher dans l'Hérault, à Clapiers, au nord de Montpellier. Et c'est là que j'ai appris le métier.
Vous avez fait le choix d'une agriculture biologique plutôt que conventionnelle. Est-ce que c'était une évidence pour vous ou qu'est-ce qui a motivé cette envie ?
Eh bien, comme je n'étais pas issu du milieu agricole et que je n'étais pas familier en fait avec tout un tas de substances et de produits, ça m'a paru évident, mais c'est plutôt, je n'y ai même pas bien réfléchi en fait. C'était pour moi naturel, j'ai presque envie de dire, d'être en agriculture biologique sans en faire un dogme non plus. Ça, c'est pour moi quelque chose d'important, de ne pas en faire une nouvelle religion. Mais voilà, ça m'a paru assez évident et il y a des produits que j'utilise pas, même des produits autorisés en bio. Par exemple, j'ai jamais mis de soufre, alors qu'en bio, ça s'utilise plutôt beaucoup.
Vous êtes arrivé ici et vous avez écrit directement à la mairie votre intention d'investir un terrain pour vos cultures, mais aussi de vous investir sur le terrain citoyen cette fois, en tant que paysan, dans un processus de travail collectif sur l'alimentation locale. Quels étaient les grands principes de ce que vous avez proposé à ce moment-là ?
Alors, dans le sud, en fait, mon activité économique de maraîcher marchait très très bien. Je vendais aux clients qui habitaient donc à la métropole de Montpellier, donc plutôt aisés en tout cas pour une bonne partie de la population, pas tout le monde mais une certaine partie. Voilà, donc mon activité marchait économiquement très bien et j'en vivais bien. Mais il y avait une insatisfaction au niveau social, parce que moi j'ai été éduc avant et mes parents ont travaillé dans le social. Voilà, ça ne me satisfaisait pas de nourrir une certaine catégorie sociale, plutôt aisée. Et voilà, donc je suis arrivé à Dieulefi avec Julie, donc ma compagne qui est infirmière, avec cette idée de, tiens, comment rendre, démocratiser l'accès à l'alimentation, quoi. Et que ça soit pas Lidl qui se charge de la démocratisation. Parce que c'est, pourquoi pas, hein, moi ça m'est arrivé encore il y a quelques temps d'aller à Lidl, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse leur faire confiance en termes... C'est pas un service public, quoi, Lidl, donc il va falloir trouver une solution pour que les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent puissent manger correctement. Voilà, donc c'est cette idée-là qui est née. Comment faire, je ne savais pas trop. Et là-dessus est arrivé, j'ai vu passer le concept de sécurité sociale de l'alimentation. Je me suis dit, tiens, mais ça ressemble un peu à ça. Et là-dessus, je ne sais plus, on m'a dit, ou j'ai contacté Camille Perrin, qui est élue à la mairie. Et il se trouvait que... Donc, on s'est vu l'été dernier et il se trouvait qu'elle avait à peu près les mêmes idées. Donc, on s'est dit, bon, ben on va imaginer quelque chose. Et puis, là-dessus est arrivé Noé, chercheur. Et il se trouvait que l'idée lui plaisait aussi. Bon, ben allez, voilà. Donc, ça, il y a eu quand même, faut pas le nier, beaucoup, beaucoup d'improvisation.
Et alors, il y a un groupe de travail qui s'est alors créé et qui vous a accompagné, notamment pour la mise en place de ce marché. Quels sont les participants à ce groupe de travail et qu'est-ce qui en est ressorti depuis presque un an maintenant ?
Bah, franchement, ce groupe de travail, il est peu médiatisé, c'est peut-être bien, mais pour moi, il est aussi important qu'en fait le marché en lui-même. Parce que je trouve que déjà, les gens sont motivés. C'est le dimanche matin, une fois par mois, à la Dolphy, de 9h à midi. Et franchement, il y a du monde. Hein. On est entre 15 et 20 à chaque fois, quasiment. Et je suis vraiment content parce qu'il y a une diversité. Donc il y a des producteurs, d'autres maraîchers du coin, il y a des gens du magasin Biopréfix qui sont là, il y a des élus, il y a des gens qui bossent à Terre de Liens, il y a des infirmiers, des pharmaciens qui veulent travailler sur la question agriculture et santé. Enfin, il y a une bénévole de l'épicerie solidaire là, de la Croix-Rouge qui passe aussi de temps en temps. Enfin vraiment,
c'est diversifié.
Ouais, je trouve qu'il y a vraiment une belle diversité et ça bosse quoi. Et vraiment grâce à Noé et Camille, c'est clair. C'est eux qui pour l'instant dynamisent vachement le projet, ça bosse, ça réfléchit, à chaque fois à la fin on repart avec des choses qui ont progressé. C'est ça un peu le challenge, c'est de pas démoraliser tout le monde mais d'avoir des objectifs atteignables comme on dit dans les mouvements d'action non violente, c'est-à-dire on vise quelque chose d'atteignable pour repartir plutôt motivé. Et on y arrive et petit à petit on y arrive en fait, plutôt que de viser la lune, ben on vise la lune mais on avance pas à pas quoi. Et du coup, les gens sont bien motivés et on a fait vraiment du beau travail sur des chartes de conventionnement, comment faire fonctionner le marché, comment multiplier l'initiative. Bah, j'ai oublié, elle fournit des comètes, bien sûr, avec Antonin qui est là. Et voilà, elle nous fournit des comètes qui sont aussi bien motivés par l'aventure. Ça bouge et c'est vraiment super, ces initiatives-là.
Alors revenons maintenant au marché du Lavoir. L'épisode 1 s'est déroulé de l'été 2021 au mois de décembre dernier. Comment ça s'est mis en place? Comment vous avez mis en place? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce principe des trois prix? Et comment ça se passe en fait quand on vient acheter au marché du Lavoir concrètement?
Alors ce principe de triple tarification, on pourrait l'appeler, parce que ça devient presque un concept maintenant. On a été contacté par pas mal d'autres initiatives un peu partout en France, dans le Périgord, vers Bordeaux, à Paris, enfin voilà, qui trouvaient intéressant cette idée de triple tarification. Je ne sais plus comment l'idée est venue. Je sais que c'est parti d'une réunion avec Noé, Camille, Julie, ma compagne et moi. Mais c'est l'idée qu'en fait, on va... Alors c'est un peu difficile à expliquer, mais à la fois c'est très simple. Il y a trois prix. Voilà, trois tarifs plutôt. Un tarif à 65%. Donc c'est-à-dire les gens payent 65% du prix du légume, par exemple. Un tarif à 100% du prix. Les gens payent le prix du légume dont j'ai besoin pour vivre, et un tarif à 125% du prix. Donc cette triple tarification, c'est pas une promotion, ou c'est pas on paye pas plus cher, c'est pas une promotion, voilà, le 65%. C'est en fonction des possibilités, des capacités économiques de chaque personne, elle détermine elle-même là où elle se situe. Et donc c'est pas, voilà, au début on disait moins 35%, mais non, en fait on préfère dire 65% parce que c'est pas une promotion, c'est rapporté à son revenu, à ses moyens en fait. Et j'aime bien cette phrase, cette idée qu'en fait une personne qui gagne 4000 euros par mois, même si elle paye 125% du prix pour ses légumes, les paye proportionnellement moins cher qu'une personne qui gagne 500 euros par mois et qui les paye 65% du prix. Ça fait un peu de mathématiques, bien que je sois assez nul en mathématiques et en proportion, mais c'est cette idée de proportionnalité.
C'est relatif.
C'est relatif, exactement. Il n'y a pas de prix absolu, en fait.
Et c'est relatif aussi à l'idée que l'on se fait de ses propres ressources. Et en fait, ça peut changer. À chaque fois que je vais au marché, je peux choisir un prix différent.
Exactement. Donc, c'est trois tarifs. Pour nous, c'était important. On n'est pas habilité pour déterminer. On n'est pas des services sociaux. On n'est pas habilité pour déterminer le coefficient CAF ou autre. Donc, pour savoir qui serait vraiment... qui aurait vraiment le droit à ces prix accessibles. Donc on fait confiance. Et j'aime bien cette phrase que la confiance coûte moins cher que le contrôle. Donc on fait confiance. Et c'est les gens qui s'auto-responsabilisent en fait. Et donc il y a un principe moi, qui est important pour moi qui s'appelle l'autogestion. J'aime bien l'idée qu'en fait on s'empare de notre consommation en autogestion et qu'on fait le pari que les gens qui ont plus de moyens vont être concernés par des gens pour que des gens qui en ont moins puissent accéder à la même nourriture. Mmh. Là où la nourriture d'habitude est un marqueur de classe sociale, ou comme les voitures par exemple, j'ai de l'argent, j'ai une grosse voiture, j'ai pas d'argent, j'ai une voiture de merde. Et ben en fait non, en fait on peut dire que je sois riche, pas très riche ou même carrément un peu pauvre, pourquoi on n'aurait pas le droit à la même carotte bonne, goûteuse? Pourquoi il faudrait que les riches aient des bonnes carottes goûteuses et que les pauvres aient des carottes en sachet dégueulasses importées de je ne sais où?
Cette première période du marché, c'était une forme d'expérimentation, une espèce d'étude de faisabilité, en quelque sorte. Qu'est-ce qui en est ressorti au niveau de la caisse collective et du chiffre d'affaires? Est-ce que l'agriculteur, en l'occurrence vous, en premier, s'en sort avec cette triple tarification?
Oui, quand j'aurai atteint mon chiffre d'affaires prévisionnel, je m'en sortirai. Parce que la force de l'idée, c'est qu'en fait, à la fois, on rend accessible des produits de qualité locaux, mais à la fois, on rémunère correctement aussi le producteur. C'est-à-dire, il ne s'agit pas, vraiment c'est important, il ne s'agit pas d'une vente à perte. C'est-à-dire, c'est les prix à 125% qui équilibrent les prix à 65% et qui sont ramenés au prix à 100% pour moi. Moi, si j'ai vendu 30 kg de tomates à 2,50€, à la fin, je récupère 30 kg de tomates, le prix de 30 kg de tomates à 2,50€. Mmh. Sinon, je n'en vis pas et c'est de la vente à perte et il n'est pas question de faire ça. Mais pour que ça fonctionne,
Il
faut qu'il y ait un équilibre, exactement.
Entre les personnes qui donneront moins et les personnes qui seront d'accord pour donner un peu plus.
Voilà, celles qui donnent un peu plus permettent à la fois de rémunérer le producteur et à la fois de rendre accessibles les produits. Donc oui, là-dessus, ça a marché. Et la caisse, qu'on appelle la caisse alimentaire, c'est-à-dire les prix qui n'ont pas été consommés en prix accessible, on est bénéficiaire. C'est-à-dire que moi, j'ai récupéré mes prix de vente. Et à chaque fin de marché, on était plutôt bénéficiaire. Et donc, actuellement, il y a 350€ sur la caisse alimentaire qui servent à financer les prochains marchés, les prochaines ventes, qui servent à financer les prochains prix à 65%, en fait.
Donc, vous réouvrez la saison prochaine avec un surplus, en fait, disponible pour les uns ou pour les autres, de 350€.
Exactement. Voilà ce qui fait déjà, ce qui permet de voir venir, en fait. Donc, c'est ça.
Alors, on parle d'une forme de démocratisation. C'est pas facile de se représenter hein, cette histoire des trois prix. Comment on fait pour que ce marché et ce nouveau système donc d'accès à une alimentation de qualité puisse toucher toutes les couches de la population et pas seulement les personnes qui sont déjà sensibilisées à ce genre de sujet?
Alors là, il y avait l'idée du lavoir, notamment. Ce lavoir-là qui est à cheval entre... un quartier qui se rénove un peu, avec pas mal de parents d'élèves de l'école là, du Ginchet, avec les nouveaux HLM qui sont vraiment à 50 mètres, avec Ecoravi qui est à côté. Tiens, ben dans ce quartier, on a une certaine mixité sociale et culturelle, voilà, et c'est bien. Et c'est un peu excentré en plus du centre. Et ce lavoir est vide, sans eau, inutilisé, avec son toit, sa charpente. Et ben voilà, en fait, l'idée de faire le marché couvert dans ce lavoir est venue. D'abord parce qu'il correspondait à un espace un peu mixte socialement. Mmh. C'était ça l'enjeu. Mmh. C'était l'enjeu, c'était pas de faire un marché au pied des HLM, pas de faire un marché à Ecoravi, mais de faire un marché qui pourrait se faire rencontrer différentes personnes qui se croisent peut-être devant l'école, mais pas forcément. Mmh. Et voilà. Ou qui se croient peut-être au club de foot, mais pas forcément.
Et ça a fonctionné également?
Et ça a fini par fonctionner, je dirais. Au début, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents d'élèves, que je remercie d'ailleurs. pas mal de gens d'Ecoravi et on va dire le public qu'on souhaitait toucher, entre guillemets, qui puisse accéder à cette nourriture au début, était là, mais doucement, doucement, quoi. Et à force d'expliquer, on a un peu aussi fait de porte-à-porte dans les HLM, mais pas que dans les HLM d'ailleurs, aussi dans d'autres endroits. Hein. Et puis petit à petit, il y a une personne, deux personnes, trois personnes. Et petit à petit, j'ai l'impression qu'en fait, chacun a pu se sentir en confiance et respecté. Parce que l'enjeu aussi, c'était pas de pas viser du doigt qui que ce soit. Ni viser du doigt les gens qui auraient les moyens, ni viser du doigt ceux qu'on n'aurait pas. Parce qu'en fait... d'un certain point de vue, j'en sais rien. Qui a les moyens, qui ne l'a pas. Et même d'un certain point de vue, je m'en fous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas mon problème, en fait. Ma question, c'est comment cette nourriture peut être accessible. Après, les gens, ils font comme ils veulent. Hein.
Ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est que ça se fait en discrétion. On choisit une bille de couleur en arrivant que l'on donne à la caisse.
C'est ça. L'idée, c'est de faire un code couleur qui correspond aux trois tarifs et qui peut se prendre au début du marché... et se donner à la fin, et du coup, il n'y a pas besoin de le dire, et on voit là que la personne donne à la caisse. Il y a juste entre celui qui tient la caisse et la personne, voilà, c'est là que ça se joue. Voilà, donc faut que la personne fasse confiance quand même, parce qu'elle elle dit à la personne entre guillemets
le prix qu'elle souhaite assumer.
Et voilà, quand des personnes m'ont dit bah voilà, je gagne pas beaucoup, mais grâce à ce principe, je peux manger des bons légumes et vraiment ça me fait vraiment plaisir. Bon ben voilà, c'était ça le but en fait.
Il y a un accent assez fort qui est mis sur la pédagogie, comme vous le disiez. Il faut expliquer aux gens, notamment le vrai prix du travail agricole et aussi ce sur quoi ils s'engagent en achetant une salade, par exemple. Ça devient moins anodin comme geste. Est-ce que les personnes qui viennent au marché du Lavoir font facilement le lien entre ce qu'ils mangent et les champs qui les entourent ?
Eh ben, c'est l'enjeu. C'est Noé et Camille qui ont beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. Sur la question du prix, effectivement, pour décomposer le prix et expliquer aux gens qu'en fait, le prix a un coût et que quand on achète dans la grande distribution ou le hard discount des légumes, je ne sais pas, des courgettes à 1 euro le kilo, eh ben, en fait, c'est 1 euro pour nous, mais ça a un coût sociétal, social, environnemental. Voilà, donc bien sûr, quand on a détaché la production de la consommation, ben, en fait, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Et là, bien sûr, c'est l'idée de rapprocher ça.
Alors justement, oui, vous avez été rejoint par le Fonds d'Île des Comètes du Poët-Laval pour le pain. Vous allez proposer aussi à la réouverture la plus de produits venant de producteurs et de productrices différents. Est-ce qu'il y a des attentes particulières de la part du public et qui est-ce qui va vous rejoindre ?
Alors ouais, il y avait des attentes sur les œufs et sur d'autres produits. Et là, on a pu trouver effectivement une jeune productrice qui s'installe à Féline. Son compagnon est apiculteur et elle s'est lancée dans des chèvres. Dans des chèvres, donc pour faire du yaourt de chèvre, des roves. Donc un très bon yaourt de chèvre, hein, qui est aussi bon que le yaourt de brebis. Et elle vendra le miel de son compagnon, ses yaourts de chèvre de différentes sortes, et aussi des œufs, voilà, parce qu'elle va aussi avoir quelques poules pondeuses. Donc là, c'est Elodie de Féline. Et il y a aussi Anne-Laure d'Alérac, qui, elle, va vendre des fromages de chèvre. Et peut-être un peu aussi de charcuterie. Voilà, donc nous aurons du coup le pain du fournil, mes légumes, le fromage de chèvre d'Anne-Laure, le miel, les œufs et les yaourts de chèvre d'Elodie et les pommes d'Erwan de Féline.
Tous les agriculteurs ne font pas ce choix de distribuer uniquement en local. Quel lien vous entretenez, vous, avec les agriculteurs du pays ? Est-ce qu'ils sont sensibles à cette démarche ?
Alors, oui, il y en a quand même, comme on est dans pas loin de la vallée de la Drôme, le pays de Diolfi, il y a quand même beaucoup d'agriculteurs en circuit court. Donc il y en a quand même pas mal qui sont sensibles, hein, faut bien le dire, ce qui est important pour moi. Mais j'ai envie de dire, l'enjeu, comme l'enjeu au marché du Lavoir, était de rendre accessibles mes produits à des gens qui étaient éloignés d'une agriculture locale, d'une agriculture paysanne. Ben, je dirais de la même manière, pour moi, l'enjeu est aussi d'arriver à dialoguer et à parler avec des agriculteurs qui sont aussi éloignés de l'agriculture paysanne et des circuits courts. Je dirais que ce travail-là, pour moi, il est tout aussi important que l'autre. Et ça, c'est mon côté un peu transclasse, comme je disais tout à l'heure, hors micro, qui est vraiment un combat personnel extrêmement important, parce qu'il en va de notre avenir commun, sans mauvais jeu de mots.
La réouverture du marché du Lavoir saison 2 est prévue. Alors, si tout va bien pour le 25 mai ?
Tout à fait. Le 25 mai, c'est certain.
Le 18, un peu moins.
Au début, voilà, parce qu'en fait, je m'en excuse. Mais voilà, j'ai fait maraîcher dans l'Hérault, où mes légumes brûlaient l'été, mais arrivaient à être très, très, très précoces. Et là, je découvre Diolfi, ce beau pays de Diolfi, cette vallée du Jabron et ces ubas où je cultive côté nord. Donc, ils sont vraiment merveilleux l'été et l'arrière-saison. Et vraiment, ça fait des carottes très, très bonnes l'hiver. Mais il ne faut pas rêver, c'est pas très précoce. Voilà.
On se retrouvera donc le 25 mai au plus tard. Le marché se tient tous les mercredis soir de 17h à 19h.
Voilà, et on va même pousser, je pense, l'été à 19h30 pour laisser aux gens là.
C'est comme son nom l'indique, et vous l'avez dit tout à l'heure, au Lavoir, à la sortie de Diolfi sur la route de Nyons. Mathieu Yon, merci d'être venu partager avec nous vos convictions. Bille blanche, bille bleue ou bille rouge, on se retrouve de toute façon assez vite autour de vos nouvelles récoltes. À bientôt.
Au revoir.
Radiola.media.